France Inter.
On passe des étangs de la Dombes, au Val de Saône, aux vignes, aux forêts, aux alpages.
CO2, mon amour.
D'est en ouest et puis du nord au sud, bah vous êtes à Mâcon, c'est une architecture différente.
Denis Chessou.
Dans les crues du Beaujolais, on est sur autre chose et au sud, il y a les pierres dorées.
Et quand même le Mont Brouillé.
Ah bah oui, là, c'est le phare du Beaujolais. 484 mètres d'altitude, c'est la première colline quand on prend la direction du Beaujolais vert.
Et sur France Inter.
Le trône là au milieu, c'est l'ouverture des portes vers les monts.
C'est Franck de Gliani qui vous parle, homme du Beaujolais, homme de Sercier, un homme qui voit avec les sons, auditeur et est devenu donc ami ensuite et qui pose vraiment ce décor. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles avec Guillaume Ficheux à la technique. Notre collaboratrice c'est Camille Blanès et c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Et qui commence toujours par une petite humeur, exubérante et folle nature qui ne répond plus de rien et n'obéit à aucune règle imposée. Mais bousculée qu'elle est, elle est repoussée dans ses derniers retranchements par l'invasion fiévreuse de nos multiples activités humaines. Alors écoutez cela, je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers. Pas certain que Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne, beau département par ailleurs, soit sensible au lyrisme de Victor Hugo. Face aux accidents de voiture, il n'hésitera pas, nous dit-il, à couper 4000 arbres. Ah, il ne s'agit pas d'être béat devant tous les arbres, parce que certains, oui, sont dangereux, mais quand on compare les départements entre eux, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de tués et la présence d'arbres, nous rappelle le média reporter. Dans ce département, qui repassait très vite à 90 km/h, il est vrai qu'on a vu des arbres avec 2,5 g de sève dans le sang se précipiter au-devant des voitures, semblant vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec leur destin d'alignement de bord de route. Et puis d'autres, accusant la fatigue et s'endormant avant de traverser. Et puis d'autres encore, avec un défaut de freinage de chute de leurs branches. Alors oui, l'arbre est fautif. Ce qui est un bon résumé de notre rapport à la nature quand même. Hein. Alors oui, là aussi, certaines inondations sont de la faute aux rivières. Elles sortent de leur pauvre lit, étroit qu'on leur a laissé à force d'avoir rectifié leur cours, canaliser leurs champs et bétonner aux alentours. Elles se répandent à l'envi, se vautrent sans vergogne dans la chambre, le jardin, la route, le champ exsangue qui discute avec le souvenir d'une haie arrachée et qui n'absorbe plus rien. La rivière s'en va alors rejoindre une mer déchaînée qui a lâché la bride à ses chevaux les plus fougueux. Le soleil brûle en janvier, les pistes vertes et puis les vents mauvais dessèchent la plaine, allument des brasiers. Et la fourmilière humaine court dans tous les sens, panique et s'entrechoque. Les boussoles interconnectées ne savent plus à quel pôle se vouer. Eh ben oui, on en est là. Alors certains, heureusement, tentent la pédagogie, cherchent à savoir, à comprendre, à parer les coups, écoutent la science. Mais est-ce qu'on les entend? Brouhaha médiatique assourdissant et contradictoire. Et puis tenez, certains parlent d'insectes, d'oiseaux et qui disparaissent. Et alors là, paf, les nouvelles nous disent que des millions d'étourneaux migrateurs pourrissent de leur fiente les rutilantes carrosseries de nos SUV dans le sud-ouest. Alors là, évidemment, nos ornithos, ils passent un peu pour des cons. Et en fait, pas du tout. Mais qui voudra comprendre qu'il s'agit encore d'un signe de la biodiversité malade, puisque les prédateurs naturels manquent et ne suffisent plus à contrôler les effectifs? Qui est prêt à entendre ça? Même limonade pour les rongeurs et les insectes. Mais à les faire comprendre donc que dans les mares et ruisseaux, reliques infiltrées de Roundup et de pesticides, les ditiques, les neppes, les nonoctèques et les batraciens qui se nourrissent des larves ont depuis longtemps fait la malle. Bah, de quoi parlez-vous? Vous devriez, nous devrions. Alors oui, couper les arbres d'alignement en Haute-Marne, ils n'ont aucun intérêt dans ce département qui abrite par ailleurs avec la Côte d'Or le parc national des forêts. Méthane, oxyde d'azote, sulfure d'hydrogène, CO2, mes amours, qui va donc gagner le Super Bowl? Alors vive la vie envers et contre tout, et chère Fabienne Chauvière, toi qui t'es battue jusqu'au bout pour cette vie que tu aimais, eh bien cette émission t'est dédiée. Il y aura donc du Beaujolais et des chèvres.
Well, I got to take a break from it all. Cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while, where there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the walls, and I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood, I'll be splitting the half. An old AM radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky-tonk. Cause I got to take a break from it all. Just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone. I'm avoiding the pictures.
Enfin non, il fallait les aider à se connaître. Donc c'était les Rolling Stones. Allez, c'est parti, nous allons dans le Beaujolais.
C'est comme ça qu'il les appelle, il les appelle les allez.
Alors Côme, il a pas encore 2 ans, hein. C'est
non,
votre petit là qui... Voilà.
Alors on a des paysages vallonnés, on a de la forêt, on a des prés évidemment, on a quelques vignes au loin, et c'est de la petite montagne on va dire.
Oui.
Et on a nos parcs avec nos petites chèvres.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le terroir beaujolais agricole est sur des tailles de ferme qui est comme la nôtre. Donc nous, on a 50 hectares et c'est une taille de ferme qui est complètement bien intégrée dans le paysage agricole beaujolais.
Allez.
Et elle déboule.
Allez, hop.
Ah ben voilà, déjà, vous savez comment parler aux chèvres, vous avez à peu près l'essentiel. Nous sommes donc dans ce Beaujolais, on laisse de côté le Beaujolais bleu, c'est-à-dire celui de la Saône, le Beaujolais rouge et ses vignes, donc pour le coup de rouge un peu chemisé, vous repasserez. Non, on va grimper, nous, sur le dos du Beaujolais vert, qui est celui donc des forêts, des prés. On est dans ce très beau département, hein, on est dans le Rhône. On est dans la comme on dit, de Belleville, dont le président Frédéric Poncherie, je le cite parce que j'avais fait une émission avec lui, avait créé le marathon de la biodiversité. C'est-à-dire 42 000 habitants, 42 km de haies à planter et aussi la création de 42 mares. Voilà, et ça c'est pas mal, de prendre vraiment en compte cette biodiversité. On quitte Beaujeu, donc le berceau, hein, c'était Anne de Beaujeu, et on prend un petit peu d'altitude, on arrive vers Vernet, et là vous avez un de ces nombreux panoramas qui vont donner sur la vallée de la Saône, et aussi quand on est un peu optimiste, on le voit très très bien, les Alpes et pourquoi pas le Mont Blanc. Et on va arriver à la ferme d'Amalté. Alors là, on est dans un univers donc de ces petites montagnes harmonieuses. Et on va voir donc quoi ? Des chèvres. Alors on se dit lait, viande, pas du tout. C'est la laine qui est donc mise à l'honneur avec Olivier Cuère et Marilyn Capfer qui sont là. Avec Côme, ce petit, donc petit Côme, futur chevrier. Et vous allez voir, c'est l'alliance de la nature, de la production, du bien-être pour la terre et les humains. Donc le concept d'une seule santé, et ça se vit sur le terrain, à la ferme d'Amalté.
Naya ! Ça, c'est notre cochon de compagnie.
Ah, c'est un Naya. Cochon de compagnie.
On a un micro-cochon.
Oui, mais enfin, au départ, moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est des chèvres angora et des chèvres cachemire.
Vous allez
voilà.
Les voir.
Eh ouais, c'est formidable.
Elles sont dans les prés.
Ouais.
C'est tout l'objectif. Alors, d'ailleurs, là, vous entendez les cabris appeler leur maman.
Oui. J'ai été débattu.
Hop là.
Allez! Allez, hop! Allez, hop! Hop! Allez!
On va descendre un peu, comme ça, elles viendront nous rejoindre.
Ah ouais, bonne bouille.
Alors elles ont été tondues mercredi.
D'accord.
Les cabris n'ont pas été tondus. Donc on voit les cabris qui sont...
avec leur maman. Avec et leur puis maman. Là, vous avez une chef cachemire, par exemple. Exactement. Là, vous avez deux petites cachemires.
Alors faites-nous la différence. Parce qu'en fait, il y en a une, on pourrait presque se dire, de loin, c'est un petit chamois, quoi. Donc... C'est un peu ça, Olivier.
Ah oui, tout à fait. Donc les chèvres cachemire, c'est celles qui sont beaucoup plus blanches.
Ouais.
C'est un caractère beaucoup plus trempé que la chèvre angora. Donc c'est un caractère qui se rapproche bien du chamois. Ouais.
Alors racontez-nous donc l'histoire de cette ferme d'abord d'Amalté. Bon. Ça nous renvoie donc assez loin, donc notre chèvre Amalté.
Donc la Amalté, c'est la chèvre qui avait, dans la mythologie grecque, nourri Zeus. C'était la corne d'abondance.
Ouais.
Et donc nous, on s'est installé il y a une quinzaine d'années, dans un premier temps avec les chèvres angora. Donc on a une centaine de chèvres angora pour faire le mohair. Et ensuite, on a 100 chèvres cachemire qui nous permet de faire du cachemire. Toujours en vente directe, donc avec la fabrication et la vente directe de produits en mohair ou en cachemire.
Mais c'est-à-dire qu'ici, vous ne pouvez pas faire la filature, vous ne faites pas le lavage, vous ne faites pas le cardage, ça vous l'envoyez donc dans le département du Tarn. Et puis donc après, donc, vous avez ces pelotes, donc vente directe pour des gens qui aiment tricoter.
Voilà, oui, donc tout ce qui est lavage, cardage, filature et teinture, ça s'est fait en extérieur.
Oui.
Et après, on récupère en fait la matière pour qu'elle soit transformée ou à l'atelier de Castres, qui est un partenaire, ou on récupère des pelotes qui nous permettent de vendre des produits finis, que ce soit des pulls, des plaids, des écharpes, des chaussettes, ou des pelotes pour que les clientes puissent tricoter leurs propres produits.
Alors ce qui est très intéressant aussi, Marie-Lyne Capfer, c'est votre philosophie. C'est-à-dire que bien-être de tout le monde, bien-être des paysages que vous entretenez, on voit des haies qui ont été plantées d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, bien-être des animaux, bien-être des humains, voilà, c'est tout ça que vous essayez de boucler.
Oui, en fait, l'idée, c'est d'être dans le respect de l'animal, évidemment, d'être dans le respect de l'environnement et également le respect de l'humain.
Voilà. Mais par voie de conséquence.
Par voie de conséquence. Et c'est comme ça qu'on se sent bien, en fait.
Ouais.
Quand on a décidé de travailler dans ce sens-là, en fait, tout devient logique. Il faut qu'il y ait une éthique sur toutes nos actions. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi de nourrir nos bêtes avec du grand épeautre bio. La démarche en bio n'est pas une démarche commerciale, financière pour nous, parce que comme on ne valorise pas les animaux en viande, ce label agriculture biologique n'est pas utilisé chez nous. Mais c'était quelque chose de logique, on le faisait déjà. Donc en fait, c'était d'aller dans cette démarche, de répondre aussi à ce cahier de charge, d'aller un petit peu plus loin. Et le bien-être des animaux, c'est qu'on va essayer en fait de leur amener la meilleure vie pour qu'elles vieillissent bien.
C'est ça.
Pour qu'elles vieillissent bien. Quand elles vont bien, elles donnent aussi une belle matière en quantité. Quand elles vont bien, eh bien on est heureux de les voir pâturer, on est heureux de les voir manger des petites branches, on est heureux de les voir manger des petites plantes.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les 50 hectares, il y a aussi de la forêt. C'est aussi extrêmement important. Je suis une chèvre, là, j'adore bouffer des ronces aussi.
Oui, tout à fait.
Les écorces, enfin...
Oui.
C'est pas que de la prairie, quoi.
Oui, clairement, on a donc sur les 50 hectares, on a une quinzaine d'hectares de forêt qui sont pour nous hyper importants. Un animal comme une chèvre, c'est pas forcément que pour brouter de l'herbe, c'est fait pour pouvoir manger des ronces, manger des arbustes. Et ça, c'est vrai qu'on le trouve énormément dans notre beau Beaujolais vert où il y a des forêts. Qui sont des forêts plantées avec les douglas, mais qui sont aussi les forêts originelles, comme on a nous sur nos 15 hectares, qui sont des chênes, qui sont des châtaigniers, qui sont des érables, toute la biodiversité qu'on peut avoir dans notre terroir du Beaujolais vert.
Je veux m'en aller. Depuis que je vous connais, il m'arrive que des misères.
Écoute, toi, tu verras, c'est fantastique, le Beaujolais. Il y a des raisins partout. Faut faire attention où tu marches. C'est plein d'oiseaux de toutes les couleurs qui chantent dans le vent. Il y a quelque chose de sacré dans l'air qui frissonne. Et oui, à cause du vent. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée. C'est un jardin d'amour, quoi. Il y a des coteaux, il y a des vallons. T'es là, t'es nulle part. Tu n'oses même plus pisser contre un arbre, tellement c'est beau.
Racontez-nous, on récupère quoi? Donc le poil, racontez-nous oui. les tontes, c'est deux fois par an quoi.
Alors, on récupère le poil de nos animaux, donc par la tonte. Donc sur les chèvres angora, on va récupérer deux fois par an. Donc en février, en juillet, août, par animal, on va récupérer à peu près 2 kilos. Donc étant donné qu'on a une centaine de chèvres angora, on va récupérer deux fois 2 kilos, donc 4 kilos par animal et par an. Et sur la chèvre cachemire, c'est complètement différent. C'est que sur la chèvre cachemire, on va se retrouver avec une tonte par an où on récupère le sous-poil. Et il faut savoir que par animal, on va récupérer 200 grammes par chèvre.
Ah oui, c'est pas la même, entre guillemets, rentabilité.
Exactement. Donc on a aussi 100 chèvres cachemire. Donc sur les 100 chèvres cachemire, on va produire 200 grammes fois 100, donc à peu près 20 kilos.
Ah oui.
Donc d'un côté, on produit 400 kilos de mohair et d'un autre, on produit 20 kilos de cachemire.
D'accord. Voilà. Donc on ne vit pas forcément qu'avec le cachemire, on se doute bien, même si ça coûte... Même s'il y a une belle valorisation, quoi.
La valorisation, elle se fait sur le cachemire, mais derrière, en fait, elle est plus compliquée, parce qu'il y a des minimums de production au niveau des filatures et de la teinture. Il y a aussi le fait que derrière, on a quand même des produits qui sont beaucoup plus chers que les produits en mohair que l'on peut retrouver sur nos magasins ou sur le site internet.
Qu'est-ce qu'on appelle les fibres nobles? Parce que j'ai vu qu'il y avait le mohair, il y avait la soie et le cachemire. Qu'est-ce que c'est une fibre noble?
Alors, il y a trois fibres nobles donc, d'origine animale. Donc, c'est le mohair, donc issu de la chèvre angora, le cachemire, issu de la chèvre cachemire, et la soie. Quand on parle de fibres nobles, c'est que quand on regarde au microscope la fibre animale, en fait, il y a des écailles, mais elles sont renfermées sur elles-mêmes. Alors que si vous prenez une fibre comme la laine de mouton, en fait, il va y avoir, ou un cheveu humain, il va y avoir des écailles, mais elles sont visibles. Et c'est ça qui fait qu'il y a des caractéristiques qui sont moins intéressantes que sur le mohair, la soie et le cachemire. Le fait que ça soit noble et qu'il n'y ait pas d'écailles ou qu'elle soit renfermée sur elle-même fait que ça prend beaucoup plus la teinture. Ça fait qu'il n'y a pas de phénomène allergène, étant donné qu'il n'y a pas de saleté comme les acariens ou la poussière qui peuvent se mettre dans les écailles. Et derrière, on a des produits en fait, qui sont beaucoup plus solides et qui sont athermiques.
D'accord.
C'est pour ça que c'est des produits qu'on peut aussi bien mettre en été qu'en hiver.
Et on voit ces chèvres, et elles sont propres, toutes blanches.
Alors ça, c'est une caractéristique de la chèvre angora, étant donné que c'est des fibres nobles. Derrière, en fait, on a des animaux où la saleté ne reste pas dessus.
Ah.
Et contrairement aux moutons où la saleté va se mettre en fait, dans les écailles de la laine,
oui.
Sur la chèvre angora, la saleté ne reste pas. Et c'est une des caractéristiques en fait, du mohair, de la soie et du cachemire.
D'accord.
Tu devrais t'amuser à les caresser, à sentir ta main après.
Ah, on va faire ça. Micro à la main, on va se débrouiller. Elles se mettent à l'ombre, et évidemment. Bonjour, vous en faites pas. Non, mais de toi, c'est juste pour une caresse, pour sentir après. Voilà. Là, tu vois, on te caresse, là, c'est bien.
Et ça sent pas. Non, mais ça sent pas beaucoup.
Ça sent rien.
Non, mais par rapport aux chèvres, aux boucs, etc., ça sent pas énormément.
Très mignon. Oui, alors ça, d'accord. Donc ça veut dire lâche-moi, et hop là. Et c'est reparti. C'est gentil de me caresser, mais enfin pas plus de 45 secondes, parce que sinon...
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, là, on parle de filière sur la laine. Par contre, on fait aussi de la cosmétique à partir du lait des chèvres cachemire.
Ah.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout à l'heure, on parlait du fait qu'on prenait sur les 2 kg de cachemire que 200 grammes. Mais il faut savoir que les 1,8 kg qui sont considérés comme un déchet, nous, on essaye de le valoriser.
Mmh.
Et on les valorise en essayant de faire des blaireaux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancien temps, à partir du poil des chèvres, on faisait des pinceaux, on faisait des blaireaux pour se raser, etc. Donc là, on essaye d'utiliser en fait, ce produit, le poil du cachemire non valorisable, on essaye d'en faire des produits comme les blaireaux pour se raser.
Alors, ce qui est assez incroyable, Marine, aussi, c'est que quand on est rentré dans votre atelier, on est saisi par une farandole de couleurs. Ouais, ça attrape la couleur, ça attrape la lumière et la couleur, ce mohair.
Oui, c'est sûr qu'on a la possibilité de jouer avec les couleurs de l'arc-en-ciel et de les offrir à nos consommateurs.
Ouais.
On n'a pas de clients, on a des consommateurs. Et c'est la matière en soi qui le permet. Parce que comme c'est une fibre qui est dite lisse, noble, vous pouvez faire n'importe quel bain de couleur naturelle. Hein, et vous en sortez quelque chose d'extrêmement lumineux et éclatant. Ajouté à ce petit fil de soie qui rajoute... encore un peu de brillance et de luminosité qui fait ressortir encore mieux Le mohair, c'est vrai qu'on peut vraiment se faire plaisir et porter de la couleur et amener de la joie et du pétillant à nos consommateurs.
Tout à fait. Bon, ben voilà, juste le temps de caresser encore un petit peu les chèvres et de me laisser apprivoiser, et puis vous aussi. Et on se retrouve. Non, restez avec nous parce qu'il y a encore des tas de choses à découvrir.
Tant de vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines. La chance bat des veines. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne. Et des fantômes à l'appel. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière, des bonheurs et des peines. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu des yeux même. Derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs, la nuit à cheval, sous la chaleur sans éventail. J'ai croisé des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme, et un héros sans défaut, sans faille, que j'aime. Et la joie des plaines, la chance bat des veines. Si le ciel me faisait le cadeau, rêver d'une vie nouvelle, sans hésiter, je revivrais la mienne. Calamité, 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 calamité.
Et oui, donc encensé par Camélia Jordana, c'est que cette Calamity Jane. Merci donc à Juliette Gou et aussi donc à Thierry Dupin d'avoir choisi ce disque. Alors nous, on y retourne, on est dans le Beaujolais. Pas loin, vous avez tenu le Mont Rigaud, qui est le sommet du Rhône, 1012 mètres, avec une source qui soigne l'infertilité. Bon, j'ai pas le cachet, si vous voulez, de la médecine. Enfin, il paraît que c'était ça, donc si on veut réarmer les ventres, si on veut de la fertilité. Alors, il faut peut-être déjà, un, en avoir envie. Dire qu'on peut être sur une terre durable et donc d'éviter de respirer des tas de saloperies et d'en boire aussi, etc. dans un monde merveilleusement chimique. Alors, nous allons prendre de la hauteur, toujours 700 mètres, nous sommes à Vernet et là, nous sommes dans la ferme d'Amalté. On rejoint Marilyn Capfer et Olivier Cuer et bien sûr les chèvres.
Allez, viens, comme on va donner à manger aux chèvres. Viens, tu donnes à manger aux chèvres.
Allez, allez, allez.
Alors, si vous voulez avancer un petit peu, on va aller
au contact.
Faut baisser la tête.
Alors,
là.
Ouais, attends.
Voilà, ça y est.
que les cachemires qui rappliquent au galop.
Allez les belles, allez, allez.
Ah, il y en a que je connais pas.
Vous voyez comme elles sont vives et comme elles sont observatrices.
Salut.
Les bichettes.
Voilà.
Allez, pour les courageux, un peu des poutres.
Oui, pas bien sûr. Allez, tiens. Les poutres dans la main. Qui qu'en veut? Bah oui.
Mais si vous voulez, le plus simple quand on élève des chèvres, c'est de les fermer.
Voilà.
Voilà, c'est de les fermer parce que vous contrôlez ce qu'elles mangent,
oui.
Vous contrôlez qu'elles ne s'échappent pas, oui. Vous contrôlez le parasitisme. Mm-hmm. Donc d'être en extensif, ça rajoute énormément de paramètres que vous ne pouvez pas tous maîtriser. La chèvre étant sensible aux parasites, c'est pour ça que c'est tellement important qu'elles aient des petites feuilles, des petites branches, etc. pour trouver en fait de quoi se déparasiter tout simplement. Et on le voit sur les troupeaux qui ont accès à des belles parcelles avec des sous-bois, elles n'ont pas besoin d'être déparasitées parce qu'elles le font naturellement. En mangeant des glands avec des tanins, en mangeant des petites ronces, en mangeant des petites écorces, nous on ne maîtrise pas tout, mais elles, elles le maîtrisent.
Elles ont leur pharmacie naturelle.
Voilà. Et ce qui est rigolo au printemps, quand on les lâche sur certaines parcelles, je ne sais pas les vertus, mais en tout cas, elles mangent toutes les primes vertes. Voilà, donc il doit y avoir un truc dans les primes vertes à étudier et qui est certainement très bon pour l'humain aussi. Mais pour le moment, on laisse ça aux petites chèvres.
Bah, très bien. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voulez donc garder ces chèvres jusqu'au bout de leur vie, quoi. C'est une quinzaine d'années.
On a envie de les accompagner jusqu'au bout parce que c'est nos vieux sages. Hein. Ça fait un peu contre-pied à l'idée qu'on a en fait et à ce qu'on voit de l'élevage classique, c'est que tout est homogène, toutes les bêtes sont belles,
calibrées,
en bonne santé,
quoi.
Voilà. Là en fait, les papy-mamies, bah c'est un petit peu plus osseux, de temps en temps ça a un peu d'arthrose, parfois les cornes sont un peu en moins bon état,
oui, voilà. En fait, vous parlez de nous, des humains, pareil.
Voilà, c'est des papy-mamies et ça fait du bien aussi de les voir vieillir et puis elles sont bien heureuses dans leur petit troupeau. Alors, elles ont leur petit troupeau pour elles, donc à partir de 10 ans, elles ont droit d'aller à l'EHPAD parce que chez nous, c'est un droit et c'est un privilège pour ces papy-mamies. Et elles vieillissent bien, elles vieillissent très bien. Alors, ça nécessite qu'on s'adapte aussi. On est beaucoup sur une médecine naturelle où on a, avec des plantes, hein, par exemple, tout simplement l'arthrose, on va traiter à l'arpagophytum. Voilà. En fait, je ne dis pas qu'à un moment donné, quand on a une chèvre qui fait une infection, on ne traite pas l'antibiotique. Cela dit, si on peut traiter les petits bobos avec des plantes, comme on a la capacité de le faire et comme on est aussi accompagné par nos vétérinaires sur cette démarche-là, eh bien, on le fait volontiers et c'est bon pour la planète, c'est bon pour elle, c'est bon pour nous. Enfin, voilà, ça va dans notre... dans ce qu'on a envie de donner, et on se sent bien quand on fait ça.
C'est pas mal hein, quand même d'avoir son âge et d'être épanoui donc, ici. Donc,
ouais, je pense que c'est une vie qui est plutôt sympa pour un petit gars.
Ah, ouais.
Il a la chance d'aller nourrir matin et soir ses petites chèvres. Il a une passion pour le tracteur. Voilà, on verra si ça dure. Mais en tout cas, il grandit dans le respect des animaux, dans le respect de la nature. On essaie de lui expliquer et il comprend beaucoup, beaucoup de choses. Et on essaye de lui donner cet amour de la nature et des animaux dans le respect de...
Voilà.
C'est aussi ce qu'on essaye de faire partager en faisant visiter la ferme.
Bien sûr.
On propose aux personnes qui sont au gîte de visiter la ferme parce que c'est important pour nous de tout partager et c'est des échanges aussi qui sont toujours...
C'est le brassage, hein,
ouais,
c'est ça.
C'est merveilleux, on en sort tous grandis.
Constamment ça tricote, quelque chose tricote, près de moi, au-dessus, comme au-dessous de moi. Tricote, on ne sait quoi, on ne sait avec quoi, sauf que c'est avec moi, sauf que la tricoteuse me manie dans ses doigts, on ne sait pas pourquoi, pourquoi.
Alors que l'on comprenne bien quand même, Marilyn, là, sur le cachemire, bon, on a bien compris effectivement qu'il n'y avait que 200 grammes par bête que l'on récupère. Alors comment ça se fait là qu'on ait du déchet? Enfin, c'est quoi cette partie de 200 grammes donc,
Alors à la différence de la chèvre angora, sur la chèvre cachemire, on ne récupère que le sous-poil. Le vrai cachemire, c'est le sous-poil.
C'est-à-dire c'est son duvet quoi.
C'est l'équivalent du duvet du canard. La difficulté étant de séparer ce poil et ce sous-poil, Et il y a également, effectivement, ces 1,8 kg de déchets, entre guillemets, qu'on essaye de valoriser.
Et votre grand épôtre qui permet donc de nourrir ces chèvres, alors lui, il vient de chez où ? Il vient d'Alsace. Hein.
Oui, alors...
Il ne va pas ici, il faut bien dire que ça ne les intéresse pas trop.
Alors, c'est un peu compliqué parce que le rendement du grand épôtre est moins bon que le rendement du blé ou d'autres céréales. Il y a aussi un risque de versement à la culture. Hein. Donc, en fait, il faut que ça pousse et que ça ne se renverse pas. Hein, voilà. Oui. Mais c'est des céréales d'exception. D'exception, parce que c'est l'ancêtre du blé. Hein. C'est exceptionnel pour nos chèvres parce qu'on nourrit entier avec le son. Le fait d'avoir le son, c'est les matières sèches, ça permet de sécuriser la ration d'un point de vue du rumen de la chèvre. La chèvre étant un ruminant, elle est extrêmement fragile, il faut un équilibre de pH dans son rumen. Et en fait, quand on amène trop de céréales ou qu'on ne maîtrise pas bien sa ration, ce qui est compliqué chez nous parce qu'elle est en extérieur, ce que je vous disais, hein, elle peut manger plus de glands, plus de feuilles. Voilà, donc quand on apporte des céréales, l'épeautre, le fait qu'il y ait le son, c'est bon pour elle, en plus, de ramener cet élément. Et l'épeautre est rempli d'oligo-éléments, rempli de vitamines. Et c'est des céréales qui sont merveilleuses. Et je trouve dommage qu'on ne les utilise pas plus et qu'on ne les cultive pas plus. Et il y a aussi que, comme je viens d'Alsace, les plaines d'Alsace sont remplies de maïs. Et j'ai du mal avec ce maïs qui mange beaucoup d'eau.
Ah, ça, c'est sûr.
Et voilà, éthiquement, c'était aussi important pour nous. Parce que c'est vrai que le maïs, c'est une ration qui est sécurisée et qui permet de bien nourrir les chèvres. C'est ce qui est nourri dans des élevages plus traditionnels. Hein, quand bien même il serait bio, c'est vrai qu'écologiquement, on aime bien l'épeautre. Voilà.
C'est comme pour France Inter. Le son, c'est merveilleux.
C'est, oui. Merci, cher Franck. Voilà ce qu'on essaye de fabriquer. Pendant qu'une chèvre est d'ailleurs effectivement en train de renifler votre poche. Olivier, quels sont les paramètres principaux ici pour que ça fonctionne ?
Alors, dans notre métier, il y a trois paramètres qu'on doit toujours suivre. Donc, c'est l'humain. C'est la partie humaine pour nourrir les animaux, pour le travail sur les animaux, etc. Il y a la partie animale. Donc, il faut suivre l'animal, son comportement, mais aussi son état de santé et son état aussi psychologique. Et le dernier point, c'est le milieu. Le milieu, on est sur un environnement qui est extérieur. Donc, le milieu, il peut être à des moments humides, il peut être à des moments secs, il peut être à des moments anxiogènes par rapport à l'animal avec le loup. Et c'est tout ça, en fait, c'est ce triptyque homme, humain, animal et milieu extérieur qu'il faut arriver à toujours à réussir à piloter. Et ça, c'est le travail de l'éleveur pour faire en sorte, en fait, qu'il y ait un bon équilibre pour l'animal.
Effectivement, par rapport au mohair, on voit bien qu'il y a quand même une physionomie qui est différente. Et avec des bois qui sont aussi différents, des cornes.
Oui, clairement. Alors nous, on est des farouches défenseurs de garder nos
les
animaux
cornes.
Avec les cornes. Ouais. Parce que déjà, c'est comme ça qu'elles ont été créées. Mais aussi pour tout plein de choses. La défense, parce que des fois, il faut qu'elles se battent contre potentiellement des prédateurs. Aussi pour nous, éleveurs, c'est vrai que les cornes, ça nous permet aussi de pouvoir les attraper plus facilement. Et derrière, c'est vrai qu'un animal avec des cornes, c'est sympa, c'est joli.
Tu donnes aux chèvres ? Regarde, il y en a encore du grain. Oh là là, bravo !
Ah oui. Maman. Oui. Pas encore assez précis comme tir, mais en tout cas, l'intention y est. Donc c'est... De toute façon, les chèvres s'en fichent, elles arrivent autour et hop, elles le ramassent.
Elles le ramassent. Ah ouais, elles trouveront chaque grain.
Ah, il n'y a pas de perte. Comment ça se passe, Olivier, au niveau des aides ?
Ben, nous, on est agriculteurs à titre principal. Donc, on a, avec nos 50 hectares, on a le droit à la PAC, donc c'est la politique agricole commune.
Bien sûr.
Après, c'est vrai qu'il y a des limites par rapport à la PAC, parce que nous, comme on disait, on utilise aussi bien les forêts que les prairies. Donc,
alors ça, ils vous les décomptent, c'est quand même
Ouais, ils décomptent les forêts, parce que sur le principe, c'est considéré comme non productif pour les animaux.
Ils décomptent les rivières.
Et ils décomptent aussi les surfaces de rivières. Après, c'est vrai que pour nous, rivières, forêts et prés, bah, c'est tout aussi important.
Ah, évidemment.
Après, dans les subtilités aussi de notre métier, en fait, la chèvre à laine n'existe pas. Donc, en fait, on est considéré comme ovin, dans la logique où ben, l'ovin peut produire de la laine, alors que dans la terminologie de l'administration, ben, la chèvre ne peut produire de la viande ou du lait, mais pas de laine.
D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est les petites subtilités du système.
C'est très carré, quoi, en fait. C'est vraiment des cases dans lesquelles il faut rentrer.
Ah ben, clairement, oui, clairement. C'est toute la limite du système.
Bien sûr. Ah ben là, je vois, t'envoies Mirabellier de Nancy,
bêcher, poirier.
Poirier, là c'est un cerisier. En fait, on essaye de replanter tous les ans des arbres. On a recréé aussi une mare. On essaye en fait d'apporter en fait cette biodiversité à notre domaine. Pour nous, mais aussi pour nos enfants, nos trois enfants, mais aussi pour l'environnement global de notre terroir.
Olivier, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter donc ici dans ce merveilleux Beaujolais ?
Nous souhaiter qu'on continue à vivre paisiblement en famille autour de nos animaux dans cette belle région du Beaujolais.
Grand merci, puis à très bientôt. Au revoir Olivier.
Grand merci Denis, et à bientôt.
Eh bien voilà, c'était donc la ferme d'Amalté, donc merci à eux, merci, et merci aux chèvres blanches auto-nettoyantes, oui, tout à fait, à Marilyn, Olivier Acôme, et puis aussi à Franck de Migliani, de Gliani, copain donc génial, non-voyant au pied du Mont Brouilly, mais qui m'indique avec précision, mais toutes les routes, un homme qui fonctionne au son, on le salue. La semaine prochaine, on va rencontrer Jean Riffa, vous savez, j'aime bien faire, vous pouvez retrouver Vinci et la nature, Giono et la nature, Colette et la nature, Rosa Bonheur et la nature, etc. Et là, et bien ce sera Jean-Henri Fabre, naturaliste et la nature. Je le retrouverai, si j'ose dire, du côté de l'Armas, donc dans le Vaucluse. Merci à Camille Blanès, merci à Juliette Gou qui a formidablement colorisé donc cette émission. Les podcasts, vous en avez l'habitude, Instagram aussi, Twitter, plein de choses. Et puis vous pouvez vous abonner tout simplement aussi au podcast de CO2 Mon Amour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quoi ? Une bonne fin de dimanche.